c'est 9h midi, les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules en direct sur RMC, RMC Story. Les Grandes Gueules avec nos trois GG aujourd'hui. Mehdi Guézard, patron de PME, Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste, et l'avocat Charles Consigny. Beaucoup de choses encore dont on doit discuter avec vous, bien sûr, au 32-16, de ce qui s'est passé à Sciences Po du mois de mai, qui est le mois gruyère. Est-ce que c'est une catastrophe pour l'économie? On reparlera d'Amiens aussi, où la municipalité a pris un arrêté pour interdire la mendicité de faire la manche dans le centre-ville. Est-ce qu'ils ont raison? Pas trop agressif aujourd'hui, les mendiants, les SDF. Bon, voilà, ça, ce sont nos sujets jusqu'à midi. En attendant, je vous propose de reparler un peu de cette autoroute très fréquentée par laquelle passent des millions de personnes entre Paris, la Normandie, l'ouest du pays. C'est la 13.
RMC, les Grandes Gueules.
Avec un petit commentaire qui a déclenché beaucoup de réactions. Ça s'est passé sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo où on voit cette partie de la 13 qui est fermée parce qu'il y a des fissures, qui est fermée entre Vaucresson et la porte de Saint-Cloud, c'est-à-dire que c'est la portion qui permet de rentrer dans Paris. Quand même des fissures qui vont jusqu'à 80 cm. Et sur cet axe routier, on y voit des cyclistes et des joggeurs, ce qui a réjoui David Béliard, qui est l'adjoint à la mairie de Paris. Il s'est enthousiasmé.
Oui, il trouve ça formidable de voir sur une autoroute des piétons, des joggeurs, des cyclistes. Et il dit finalement, on voit bien que quand on supprime le tout voiture qui nous empoisonne et nous emprisonne, c'est une bonne chose. Il faut quand même rappeler que c'est surtout l'enfer pour les automobilistes, cette fermeture de la 13, parce que c'est un endroit stratégique pour entrer dans la capitale. Ça ne concerne pas seulement les Parisiens qui partent le week-end en Normandie, ça concerne des centaines de milliers d'automobilistes du quotidien qui vont travailler à Paris ou qui sortent de Paris pour leur déplacement. Et alors, on nous dit qu'il y a une réunion d'experts aujourd'hui. Bon, on verra, mais en tout cas, le 1er mai, c'était la date qui avait été donnée pour la réouverture. Et visiblement, pour l'instant, on ne fixe pas de nouvelles dates. Donc, c'est pas très très bon signe parce que de nouvelles fissures sont arrivées. Le même David Béliard, qui est l'écologiste parisien, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a les manettes, hein, puisqu'il est adjoint à Anne Hidalgo, hein, c'est pas simplement un élu. Il est opposé à la vente du Parc des Princes au PSG, ça c'est pour Mehdi Guézard. Mais il est aussi opposé aux Jeux Olympiques Paris 2024. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que j'ai retrouvé ce qu'il disait sur Paris 2024. Il disait: je m'inquiète des restrictions de circulation causées par les Jeux Olympiques entraver le quotidien des Franciliens. Donc le même David Béliard qui visiblement a un problème dans sa tête, dans des contradictions. Il dit que les JO, c'est un scandale parce que ça va entraver la circulation des Franciliens. Mais en revanche, la 13 fermée, c'est une bonne chose parce que ça permet à des joggeurs du dimanche, dimanche et trois cyclistes de pouvoir l'emprunter.
Voilà. Et la voiture emprisonne.
Et la voiture, bien sûr, empoisonne.
Michel ? Non, bah, ce qui est affreux, c'est que ça montre que, en fait, ce sont des fanatiques, ces gens-là. Ce sont des talibans de l'écologie. Ils ne pensent pas intérêt général, objectivité, efficacité. Ils pensent idéologie, fanatisme, punition. Aller se réjouir bêtement qu'il y ait trois pelés sur un tronçon d'autoroute en train de faire de leur jogging en disant c'est formidable, machin. Pour moi, c'est du fanatisme. Les autoroutes sont quand même aux dernières nouvelles faites pour que les gens puissent prendre leur bagnole, qu'elle soit, elle peut être électrique d'ailleurs, la voiture, n'en déplaise à Monsieur Béliard, pour prendre leur bagnole, pour se déplacer. L'atteinte, la liberté d'aller et venir, est encore, sur le plan théorique, une liberté constitutionnelle. Alors, personne ne la défend. Tout le monde s'en fout complètement. Bon. Donc, ce qu'ils ont fait à Paris, ça montre qu'ils ne l'ont pas fait de manière objective, dans un souci d'efficacité et de pragmatisme. Ça montre qu'ils sont fanatisés et qu'ils sont dans une espèce de haine de tout confort individuel et dans une espèce d'obsession. Voilà. C'est ça que révèle ce tweet.
Monsieur Poncet ?
Moi, ce que je vois, au-delà de ce que vient de dire Charles, moi, je suis un peu inquiet. Si c'est ça l'image de la gauche à Paris, je suis quand même un peu inquiet parce que ça veut dire que c'est une personne qui certainement doit avoir un logement de fonction, donc qui peut habiter en Paris-Centre, et qui méprise les gens qui habitent un peu en bordure de Paris, et voire même des fois assez loin. Moi, j'ai des amis qui habitent un peu plus loin, qui prennent cette A13-là tous les jours à cause du pour le taf, parce qu'ils sont obligés de prendre leur bagnole ou leur scooter pour aller au boulot. Et moi, je trouve que cette personne-là, si c'est ça la gauche à Paris, bah, à mon avis, enfin, on peut tout de suite arrêter et puis laisser la place à Dati direct, hein. En fait, parce que ces gens-là, je sais pas à qui ils parlent, en fait. Ils parlent peut-être aux illuminés qui pensent qu'on va d'un claquement de doigts.
Ceux qui habitent dans le centre de la capitale et qui ont un vélo.
Non, mais Olivier, qui peut habiter dans
le centre? Il parle de gens comme lui, en fait.
Non, mais qui peut habiter dans le centre?
Qui sont célibataires, qui vivent dans des appartements sans doute plutôt agréables du centre de Paris parce qu'ils en ont les moyens et qui se déplacent à vélo parce que leur travail est à 10 minutes à vélo.
Est-ce que le commun des gens gagne entre...
C'est vrai que c'est assez restrictif, je
suis d'accord. Est-ce que le commun des gens gagne entre 10 et 30 000 balles par mois pour habiter dans le centre de Paris? Parce que c'est ça, les prix pour habiter dans le centre de Paris.
De plus en plus, hein. La classe moyenne fuit Paris maintenant.
Entre 10 et 20 000 balles le mètre carré. Qui peut habiter dans le centre de Paris, à part des gens peut-être qui ont des appartements de fonction et qui après vont te faire des leçons de morale?
Je sais pas si appartements de fonction. Je suis pas sûr, non.
Beaucoup en ont à la mairie de Paris.
Ouais.
En revanche, il y a une chose est sûre, j'aime à le rappeler, c'est qu'à chaque fois que David Belliard est venu ici répondre à des interviews pour BFM RMC, il a toujours fait appel à un VTC. C'est-à-dire qu'il ne vient pas ni en vélo, ni en métro. C'est-à-dire qu'il utilise lui-même une voiture individuelle.
Mehdi.
Attention.
Non mais ça prouve encore que ces gens-là sont complètement déconnectés de la réalité, tout simplement, parce que moi, je le dis hier sur un tweet sur Twitter. Est-ce que ce mec-là peut avoir le courage de parler comme ça devant des familles, devant des pères de famille ou des mères de famille qui mettent 2 heures de plus le matin, 2 heures de plus le soir pour rentrer chez eux ou pour aller au travail? Est-ce que ce mec-là, tu le mets dans une salle avec 500 automobilistes qui sont en train de souffrir depuis depuis 3 semaines? Est-ce que ce mec-là aurait cette débilité de courage de le dire comme ça devant un parterre de personnes qui ben non, il l'aurait pas. Mais par contre, pour faire des tweets complètement hors sol, complètement déconnecté, ben là, c'est le premier à le faire. Mais ça m'étonne pas, parce que c'est la bande à Hidalgo, c'est la bande aux gens qui ne vivent pas le même monde que dans lequel on vit, dans lequel vivent les Parisiens, tout simplement. Parce que il te parle d'écologie, il te dit que la voiture tue. Mais c'est les personnes là qui n'utilisent pas la A13. Ouais. Ils laissent pas leur bagnole chez eux. Ils passent par des petites villes tout autour de la A13. Donc ils consomment beaucoup plus de carburant. Donc ils consomment beaucoup plus d'émissions de CO2. Ça fait beaucoup plus.
Ils engorgent des petites routes.
Voilà, ça fait beaucoup plus de circulation, ça fait beaucoup plus de bouchons. Et en fait, c'est complètement idiot ce qu'il est en train de dire. Mais c'est tellement idiot dans sa.
À se demander si c'est pas eux qui ont.
Mais ouais, c'est à se demander si ce mec, il n'était pas sous produit stupéfiant ou sous alcool quand il a fait ce tweet.
Non, il est sous idéologie.
Tu peux pas dire autant de conneries en si peu de mots sur un tweet.
Je trouve que c'est impossible. Ils ont fait un truc que je trouve vraiment criminel. J'ai eu le malheur récemment d'aller déjeuner dans le 9e arrondissement de Paris. C'est pas très loin. Je venais de mon bureau.
Il pleure là-bas.
À côté de la place de l'Étoile, dans le 9e. Théoriquement, ça va. Je suis en retard, il pleut. Je prends un taxi en me disant, je vais arriver à peu près à l'heure. Évidemment, je suis arrivé avec au moins une demi-heure de retard. Oui. Parce qu'en fait, on ne peut plus circuler dans Paris, même en taxi. Et je trouve pas que ce soit criminel de prendre un taxi. Je suis désolé, les personnes âgées, elles ont besoin de prendre un taxi. Quand il pleut, quand t'es en retard, t'as besoin de prendre un taxi pour que les gens soient, pour que ce soit efficace aussi. Quand on travaille, etc., on peut pas forcément, si on a plusieurs déplacements dans Paris, on peut pas forcément tout le temps prendre son vélo, etc. Et ils ont donc détruit un truc avec leur théorie de la ville du quart d'heure, où tu dois en fait avoir tout à un quart d'heure de chez toi. En fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu es enfermé dans un périmètre d'un quart d'heure autour de chez toi.
Et
donc, le plaisir qu'il y avait...
C'est une connerie, la ville du quart
d'heure. Le plaisir que c'était d'habiter Paris, et donc, par exemple, d'aller dans un autre arrondissement que le sien, pour aller dans un restaurant, pour aller chez des amis, etc. Ce plaisir-là, il a été totalement détruit par cette équipe de fanatiques. Donc moi, je trouve que ce sont des gens... dangereux et qui serait vraiment grand temps qu'il rende le pouvoir.
C'est 2026, ces élections.
La ville du quart d'heure, c'est un Colombien, l'urbaniste franco-colombien Carlos Moreno qui a inventé ce concept, effectivement, de la ville au quart d'heure, où en fait, tu as tout à portée de main dans ton quartier, donc tu te déplaces à pied ou à vélo.
Il y a une chose aussi qu'il faut entendre, c'est les commerçants parisiens. Je ne connais pas, et pourtant j'en connais beaucoup. Je ne connais pas un commerçant parisien qui ne se plaint pas. J'en connais pas un.
Vois aussi les directeurs de salles de spectacle.
Non, mais les gens n'arrivent plus à se garer, à stationner. Les métros où les sont bondés, ils te disent les gens ne veulent plus venir en transport. L'insalubrité, la saleté, l'insécurité. Et en fait, les Parisiens te disent, attends, je paye des taxes foncières de dingue. Je paye des taxes, à l'époque des taxes d'habitation maintenant, pour ceux qui n'ont, qui, il y en a qui ne vont plus en payer, de dingue. Je paye des PV de stationnement de malades mentaux. 75 balles le PV de stationnement. Je sais pas, les gars. 75€ si tu payes pas ou si tu es en retard de paiement de ton FPS. 75€. Quand un mec touche 1200€ et qu'il a, il a pratiquement un dixième de son salaire qui se fout en l'air parce que il est à Paris. On est où? Excusez-moi, mais ça devient, c'est horrible. Tous les appartements qui deviennent pratiquement tous des Airbnb, il faut le savoir, ils sont mis pour une clientèle étrangère. Et les étrangers, ils quittent Paris parce qu'ils te disent, ils se sentent pas bien à l'intérieur. Donc à un moment, il faut juste se poser les bonnes questions. Tout.
Ce qui est terrible dans cette sur cette photo ou cette vidéo, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous verrez, elle est relayée des centaines de milliers de fois, c'est qu'en fait, on voit juste 3-4 personnes qui sont sur le bitume.
Ce qui est
intéressant, c'est de lire les commentaires dessous. C'est-à-dire qu'au moment où cette photo est publiée, tu avais des milliers de personnes qui, elles, étaient coincées dans les embouteillages et qui disent vous riez, ça vous fait plaisir, alors que moi, ça fait une heure et demie
sur dimanche n'a pas
que
publié ces photos.
D'autant que. Comment ?
Hier n'a pas publié les photos d'embouteillage.
Non,
ah là, il a publié ses photos.
D'autant que là, c'est un des axes les plus fréquentés parce qu'il va vers l'ouest et vers la capitale. Et bon, là, on va arriver sur le mois de mai.
Ça va être une catastrophe.
Il va être le mois des ponts parce que si vous prenez cette partie de l'autoroute, d'abord, ça vous permet d'aller vers Versailles.
Vers l'ouest. Et,
puis ça vous
vers l'ouest.
Ça vous permet d'aller vers
Normandie,
vers la Normandie, vers la mer. Normandie, ouais. Donc, je n'ose imaginer à ce qui va se passer. Les week-ends là qui vont arriver et non, puis là le week-end du enfin avec le 1er mai
excuse-moi là il y a aussi une chose qui est quand même flagrante. Je suis alors avec mon corps de dodu, je suis pas le plus grand amateur de
footing, c'est quand même beau gosse,
ça se voit.
Ton corps
mais,
de dodu
ouais. Ouais, j'aime beaucoup
mais non mais voilà mais
il
voilà
je les poupons
je, voilà. Oui, il est beau gosse quoi
mais excusez-moi en termes de gens qui pratiquent le footing, quand t'as une forêt à droite et une forêt à gauche qui courent sur l'autoroute, je trouve que le symbole est quand même un peu dégueulasse pour un écologiste.
C'est vrai qu'il faut préciser que cette autoroute traverse une forêt.
Voilà, oui. L'autoroute traverse une forêt, donc à droite et à gauche il y a une forêt, mais non. Mais t'as 5 joggers qui disent ah ben non, après, moi je préfère la A13, ça permet une compète.
Non mais Mehdi, je comprends qu'il se.
Alors dis un jogger de courir sur du macadam et tu vas voir en face du
bouchon
et tu vas voir ce qu'il va te dire.
Je pense uniquement le kiff de se dire tiens on a couru, on a fait du vélo sur la 13.
Bah, il leur faut pas beaucoup hein,
mais le même David Belliard.
Alors, elle doit être chiante à cela.
Non mais ils ont dû courir sur l'autoroute.
Leur kiff du week-end c'est de courir sur l'autoroute.
Le même David Belliard s'était réjoui pendant le confinement de voir Paris immobilisé, arrêté, vide, sans aucune circulation. Je me souviens, il avait tweeté en gros c'est génial, on entend les petits oiseaux chanter. Voilà. Donc en fait le rêve absolu.
Mais peut-être parce que le même David Belliard il a un salaire qui tombe tous les mois. Le même salaire, il a un salaire, ce David Belliard, et il a pas la sécurité du salaire à la fin du mois, il a pas la sécurité du travail à la fin du mois. Et quoi qu'il arrive, il touche son pognon.
Regarde, le rêve de David, dans le quartier du Marais à Paris, maintenant, la circulation n'existe plus du tout. Ils ont réussi à anéantir.
Et le BHV d'ailleurs.
Il n'y a plus une seule bagnole qui peut circuler dans le Marais. Résultat, qu'est-ce qu'il y a? Des touristes. Mais des masses de touristes.
Le week-end, c'est un truc de ouf.
Des boutiques connes qui vendent des trucs trop chers, qui ne servent à rien.
En fait, ça devient un musée pour les touristes.
Ouais. Voilà. Et des gens qui déambulent là-dedans massivement tout le week-end. Donc, c'est des quartiers qui perdent complètement leur âme, qui perdent toute
authenticité. Et les écoles ferment des classes parce qu'il y a de moins en moins de...
Avant, il y avait la rue du Temple, qui était une rue sympathique avec des grossistes chinois, des vieux immeubles du 18e siècle. Mais c'est vrai, c'était une rue sympa.
Il y avait une vie.
Qui vivait dans la rue vieille du Temple. À côté, il y avait des commerces normaux. Il y avait, je me souviens encore, il y a 15 ans, il y avait un fromager, il y avait un marchand de journaux, il y avait des trucs.
Il y avait
comme
des
ça.
Commerces de bouche.
Maintenant, il n'y a plus rien du tout. Maintenant, il y a des trucs qui vendent des t-shirts à 150€. Et tout est devenu
c'est
comme ça.
Tu n'as pas vu les agents immobiliers, le nombre de pancartes à louer, à céder, à vendre dans Paris?
Ah, puis dans le Marais,
je sais pas si vous parlez un peu avec les agents immobiliers.
C'est des gens qui ont détruit Paris.
Non, mais je sais pas si vous en rendez compte, mais la période de fonds de commerce sur Paris, elle est de 2 ans et demi. C'est-à-dire qu'un fonds de commerce reste en moyenne, bon après il y en a qui restent 20 ans, il y en a 2 ans et demi.
Après tu mets la
question. Et après les gens, ils ferment, ils changent.
Ouais, oui, ils changent. Ouais.
Ou c'est parce que le loyer.
Ça va devenir un chocolatier pour touristes.
Et en fait, ça, ouais,
c'est
tu vois,
on devient déjà ça.
Paris, et moi c'est un copain, un agent immobilier qui m'a dit, Paris, on devient, c'est que des boutiques éphémères, on dirait.
Ouais, oui.
Ils viennent, ils ferment, ils ferment.
C'est le même boutique partout.
Mais ça n'arrive plus.
Je ne comprends pas.
Ils n'arrivent plus. Il n'arrive plus à tenir
pas la
une
logique,
boutique.
En fait, parce que ou alors effectivement on trouve ça très bien de créer nos centres de transformer nos centres-villes en Disneyland pour touristes.
Ah, ouais.
Je comprends même pas l'intérêt de ces élus de gauche parce qu'un jour ou l'autre ils vont être balayés par cela parce
Olivier,
que ils vont être remplacés par une population
gauche,
qui ne votera pour.
Il peut pas être de gauche.
Béliard, il est de gauche.
Non mais il peut pas être de gauche. Tu peux pas mépriser autant les gens qui travaillent, qui viennent de banlieue, qui eux. Sont souvent des gens du peuple pour dire des trucs comme ça. Il n'est pas de gauche. Il est pas de gauche. Pour moi, Béliard et la plupart des gens de.
Moi, je voudrais bien que ces mecs.
Et Sandrine Rousseau compagnie, ils ont jamais, ils savent pas ce que c'est que la vraie gauche.
Non, moi, je voudrais bien que ces mecs, au lieu d'être derrière un écran et d'envoyer un tweet pour faire son kéké, que ce mec-là, bah, justement, il se retrouve dans les bouchons et leur disent, bah, écoutez, je vais vous expliquer pourquoi c'est super.
Non, ils sont joyeux dans les bouchons,
et qu'après, ils s'expliquent.
Alors, puisque tu me parlais de la gauche révoltée, elle est à Sciences Po ce matin. La gauche solidaire des Palestiniens, elle a bloqué Sciences Po et elle a négocié avec la direction de Sciences Po de pouvoir avoir des agora, de pouvoir avoir des discussions et s'interroger sur les partenariats que Sciences Po a avec Israël ou des organismes affiliés à Israël. Alors le blocage à Sciences Po, la révolte d'une poignée d'étudiants, est-ce qu'on applaudit ou est-ce que c'est une honte? C'est au 32-16 que vous pouvez venir en discuter avec les GG.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec vous au 32-16 pour discuter, pour débattre, pour prendre position, pour témoigner, notamment là maintenant ce qui concerne Sciences Po.
RMC, les grandes gueules.
Ah, Sciences Po. Vous êtes l'honneur de notre pays. C'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon en saluant les étudiants de Sciences Po qui se sont mobilisés pour la cause palestinienne. Vous savez qu'ils ont, enfin, ils sont une poignée, hein, mais ils ont bloqué en partie Sciences Po et il a fallu que la direction aille négocier avec eux.
Alors, ce sont il y a une cinquantaine d'étudiants tout d'abord, hein, donc c'est quand même très minoritaire parmi des milliers d'étudiants de Sciences Po. Première chose. La deuxième chose, c'est que des étudiants avec des kéfiers, ça a toujours existé. Moi-même, j'étais en fac à Nanterre il y a
63
années.
Il était en fac à Nanterre.
Il y a 30 ans à Nanterre en sciences humaines, parce que j'étais en histoire, donc j'étais dans le bâtiment sciences humaines où effectivement tout le monde était en kéfier. Donc c'est pas nouveau que les étudiants prennent fête et cause pour la cause palestinienne.
Petit pull sur les épaules.
Ce qui pose. Non, déjà, j'observais.
Il avait des chats Burberry.
J'étais pas encore journaliste, mais ma curiosité me poussait à les observer. Et donc, c'est pas nouveau. Là, ce qui peut poser problème, c'est que, effectivement, ces manifestants reprennent des slogans qui posent problème, comme celui de la rivière à la mer, c'est-à-dire revendiquer un État où les Israéliens ne seraient plus là, ou en tout cas, il n'y aurait plus d'État d'Israéliens. Ils sont aussi totalement récupérés par la France insoumise. J'entendais ce matin Manuel Bompard qui appelait au soulèvement, carrément, dans toutes les facs, appuyé par Rima Hassan, qui est devenue la nouvelle égérie de la France insoumise. On en oublie même que la tête de liste aux européennes, ce n'est pas Rima Hassan, mais c'est Manon Aubry. Et puis, cerise sur le gâteau, ce matin, le tweet du guide suprême iranien qui a repris des images de la Sorbonne, des images aussi de certains campus américains, de Sciences Po, pardon, de certains campus américains, et en félicitant ces étudiants parce qu'ils se révoltent, je le cite, contre la France et les États-Unis. Voilà où on en est.
Alors, est-ce que c'est la honte si on se pose que la direction s'est couchée? Qu'est-ce que vous en dites, Bruno?
Bah, déjà, moi, ce que vient de dire Olivier, ça me retourne l'estomac parce que le guide iranien, quand on voit ce qu'il fait, là, il vient de condamner à mort un rappeur. Enfin, à un moment donné,
il y a une manifestation à Paris en soutien à ce rappeur qui risque d'être pendu.
Il sera pendu parce que connaissant comment
la France insoumise n'y était pas à cette manif.
Non, la France insoumise. En revanche, il y avait Yannick Jadot.
Il y avait Yannick Jadot, ouais, effectivement.
Ouais. Il n'est pas de la France insoumise. Non. Et je ferai une distinction entre les écologistes et la France insoumise ce soir.
Moi, il y a deux trucs. Moi, je trouve normal que Sciences Po soit politisé, c'est logique. Moi, j'ai été faire des conférences là-bas. Je me suis retrouvé en face de Valls, je me suis retrouvé en face de Cazeneuve, je me suis retrouvé en face de mecs de droite. Enfin, voilà, c'est comme ça, tu fais des conférences. Sciences Po, c'est politisé, c'est normal. Après, moi, je pense qu'il faut toujours faire attention à où tu mets les pieds et avec qui t'es récupéré. Si t'es récupéré par le grand guide iranien, par le chef des Mollahs, je pense que là, t'as dû vriller quelque part, malheureusement. Et je fais toujours attention aux slogans que tu peux entendre quelque part. Et j'ai toujours fait attention où je mettais les pieds. Moi, j'ai des valeurs. qui s'arrête à un moment donné dans mes convictions et mes valeurs ne s'arrêtent jamais parce que je veux pas mettre les pieds dans des endroits où j'entends des trucs que je veux pas être derrière. Et effectivement, la récupération qui est faite derrière, alors que je trouve ça normal à un moment donné de demander certainement des débats au sujet là, de faire un peu plus de liberté. Aujourd'hui, il y a quand même des vrais sujets sur ce qui se passe à Gaza et je pense qu'il faut quand même en parler. Peut-être que, voilà. Par contre, il faut faire attention où tu mets les pieds, il faut faire attention à certains slogans, parce qu'il y a certains slogans quand même qui sont connotés et qui sont quand même très dangereux à dire. Et un jour, il faut quand même pouvoir se regarder en face quand tu dis certaines choses. C'est tout ce que je pense, moi, là-dessus.
Mehdi.
Écoutez, il y a une récupération politique à outrance. Des deux côtés, c'est une évidence. Je pense que c'est un combat idéologique nauséabond des deux côtés, d'accord ? Parce qu'il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas très belles. Et il y a aussi énormément de blabla, il y a beaucoup de blabla pour pas grand-chose, parce que j'ai vu il y a deux jours qu'il y avait même eu une édition spéciale sur une chaîne de télévision en continu par rapport à ça, pour 50 gamins ou, allez, 100 gamins qui font une manifestation devant Sciences Po. Je trouve que c'est fort de café. Après, voilà, peut-être qu'il n'y a pas assez de news en ce moment et qu'ils ont besoin de combler des trous dans les chaînes d'information. Mais faire une édition spéciale en plein cœur d'après-midi pour 100 gamins qui te manifestent devant Sciences Po. OK. Maintenant, la direction, est sous la responsabilité de sa ministre de l'Éducation nationale.
Elle s'est engagée à ouvrir d'ici jeudi prochain des débats internes ouverts à toutes les communautés de Sciences Po. Et elle dit aussi qu'elle va suspendre les saisines de la section disciplinaire.
Voilà. Je pense très honnêtement qu'on en fait un foin pour pas grand chose pour 100 gamins qui sont en train de manifester et qui ont comme en mai 68 comme du temps d'Olivier Truchot en 1932 quand il manifestait voilà les gens manifestaient, les gamins manifestaient
pour
n'importe quoi, et là en l'occurrence ils manifestent pour la Palestine, c'est leur choix tant que ça reste dans les lois de la République.
Il faut pas bloquer.
Tant que ça reste, que les manifestations sont républicaines, qu'elles sont autorisées, dans les lois de la République, il n'y a pas de souci.
Mais regardez qui est sur la photo qui est derrière Alain Marchal. Il y a une grande photo derrière Alain Marchal.
Avec le haut-parleur.
Avec le haut-parleur, c'est pas un étudiant de Sciences Po.
Non.
Hein, je crois pas. Hein.
Non, c'est Anas Kazib de Révolution Permanente, qu'on connaît bien.
C'est là où je vous dis qu'il y a de la récupération politique à outrance. Attention. Il y a de la récupération politique des deux côtés. Du côté LFI, et il y a de la récupération politique aussi de l'autre côté qui te disent, voilà, c'est regardé, c'est la Palestine, il y a des trucs, c'est pas normal.
Je dis simplement que ceux qui viennent haranguer les foules et pousser les étudiants,
c'est pas
sont
les
des
plus...
gens qui n'ont rien à voir avec Sciences Po.
Je suis d'accord.
Qui veulent foutre le bordel, c'est des révolutionnaires.
Qui n'ont rien à voir même avec
Charles.
En tout cas, il fut un temps où les révolutionnaires se liguaient derrière Gisèle Halimi, derrière des grands personnages. Aujourd'hui, ils sont derrière Anas Kazib. Donc c'est vous dire la lutte. Mais bon, moi je suis un peu comme mon camarade de droite Bruno Poncet, je pense que
de droite parce qu'il est assis
à ma droite. Je pense qu'il est normal que les étudiants de Sciences Po
se mobilisent
pour ce genre de cause. Ils sont dans leur rôle d'étudiants de Sciences Po, ce sont des jeunes bourgeois qui jouent avec le kéfier sur la tête à se prendre pour on ne sait quoi. Je pense qu'ils feraient quand même moins les malins.
Ils voteront à droite dans 20 ans, c'est ça?
Je pense, si tu veux, que, ils feraient moins les malins s'ils essayaient de faire leur sitting à Gaza, sous commandement du Hamas.
Oui.
Je pense que s'ils avaient une autre cause à défendre que celle-là et qu'ils faisaient un sitting là-bas, ils découvriraient tout à coup que, il y a quand même, dans cette région-là, une démocratie qui est Israël et qui est entourée de voisins administrés par des dictatures violentes, brutales, où les libertés ne sont pas garanties. Excuse-moi de te le dire, c'est la réalité. Ensuite, je pense que
les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Oman, ce sont des dictatures où la violence. Ah ouais, c'est vrai que Dubaï est une dictature.
C'est une dictature.
Et quand tu découpes un journaliste dans ton ambassade,
j'ai pas parlé de l'Arabie Saoudite. Excuse-moi, je sais pas. Pour toi, un arabe, c'est la même chose partout.
L'Égypte.
Excuse-moi, je sais pas.
Maintenant,
si l'Arabie Saoudite, c'est Dubaï, mon ami, où tu fais des cours de géo? Non mais excuse-moi, mon ami. Non mais c'est pas un arabe, c'est un arabe partout. Tu vois? Libye,
l'Égypte,
on fait des ponts, on se détend,
c'est une
tranquille. Je sais pas. Mon ami, tu me dis oui,
démocratie.
Ce sont pas des démocraties. On peut voir.
Il y en a. La seule démocratie, Mehdi, ne t'en déplaise, la seule démocratie de la région, c'est Israël. Le seul État libéral de la région, c'est Israël. Je suis désolé de vous le dire. Le seul endroit où les droits et libertés des citoyens sont garantis dans cette région, c'est Israël. Et c'est d'ailleurs Israël qui est visé par tous ses voisins qui veulent tous le détruire. Donc ça, c'est un état de fait. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'Israël, attaqué par le Hamas, a décidé de faire la guerre au Hamas. Comme ils font la guerre, ils font une riposte qui est violente, qui est très violente, que certains considèrent comme trop violente. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'elle est effectivement disproportionnée. Eux, ils disent oui, mais ils prennent des exemples, des précédents historiques de pays qui ont répliqué à des agressions. Moi, je pense qu'on peut aussi considérer qu'on progresse et que maintenant, la guerre ne doit plus être la même qu'avant. Ils font une guerre un peu à l'ancienne, disons, à Gaza. Et donc, il y a évidemment des morts qui sont condamnables. Et je pense aussi que ces jeunes viennent en quelque sorte suppléer à l'atonie du monde politique sur la question de Gaza. C'est-à-dire que tout le monde se tait, en fait, quand même, à part LFI, parce que aussi beaucoup de gens pensent que la riposte israélienne est légitime.
Il dit une chose et son contraire. Demande un cessez-le-feu régulièrement.
Oui, il dit un peu une chose et son contraire. Il n'est pas très punché, etc.
Je
pense qu'ils sont dans leur rôle, mais je pense aussi que il faut qu'ils prennent garde. Typiquement, ils sont harangués par Anas Kazib. Je pense que si tu donnes le pouvoir à Anas Kazib, tu ne restes pas en démocratie derrière.
Donc je pense tranquille.
Qu'il faut qu'il fasse attention.
C'est vous qui êtes emmerdé là.
Je pense qu'il faut qu'il fasse attention au régime qu'il défend.
Ouais. Voilà. Nous sommes avec Baudouin. Baudouin, bonjour.
Oui, bonjour les Gégés.
Qu'est-ce que vous en... Oui, bien, Baudouin, bonjour, vous êtes cavalier enseignant dans le Loir-et-Cher. Qu'est-ce que vous en pensez alors de ce qui s'est passé à Sciences Po et de la direction qui a négocié avec les étudiants alors?
Ben, je trouve que c'est lamentable que Sciences Po soit occupé de la sorte. Ce serait bien qu'on arrive enfin en France à avoir une position ferme, forte et courageuse, d'arrêter de se laisser enquiquiner pour rester poli par ces fauteurs de troubles. Parce que on s'aperçoit qu'en fait la cause palestinienne est complètement discréditée puisque maintenant elle est à la solde des barbus. Et qu'est-ce qu'on voit quand on écoute les petits gamins là de Sciences Po et compagnie, c'est que certes, on est au-delà du kéfier maintenant. C'est carrément des femmes voilées et la cause palestinienne, elle a disparu au profit de la cause du Hamas qui pratique un emprisme hyper dangereux. Et on ne s'aperçoit pas qu'en fait, on va tout droit, si on va un peu plus loin dans le débat, on va tout droit vers une guerre de religion. Et je pense que ce qui a fait que la France a pu être ce qu'elle a été et qu'on est en train de faire disparaître, c'est que le principe de la laïcité n'est pas respecté. Il est bafoué tous les jours. Tous les jours, il est bafoué. Et on ne devrait pas l'accepter parce qu'on est en train de foutre en l'air ce qui a fait que notre pays a tenu pendant des décennies. Et donc, oui, effectivement...
Baudouin, je m'interroge... sur la culture politique de ces jeunes étudiants qui sont pourtant à Sciences Po, hein, c'est-à-dire dans une école de sciences politiques. Parce que effectivement, s'ils travaillaient un peu le dossier, ils pourraient à la fois, bien sûr, critiquer ce que fait Netanyahou, mais aussi dénoncer le Hamas, qui a pris en otage la cause palestinienne, vous avez raison de le dire, qui impose la charia sur place, ce qui n'a rien à voir avec la cause territoriale, c'est-à-dire l'idée qu'il faut que les Palestiniens aient un État. Et je pense que la crédibilité serait de condamner ce que fait Netanyahou à Gaza, mais aussi dire qu'avec le Hamas, il n'y a pas d'avenir pour les Palestiniens. Et c'est là où je ne comprends pas ces étudiants. Soit ils sont incultes, pardon, il ne faut pas non plus exclure cela, soit effectivement ils sont totalement manipulés par ce qu'on appelle, je suis désolé, et ça existe, l'islamo-gauchisme. Et d'ailleurs, ça a été inventé par les mollahs iraniens. Hein, la première fois de parler d'islamo-gauchisme, c'était fin 70, lorsque la gauche soutenait le retour de Khomeini en Iran. Et le guide suprême iranien qui valide ce qui se passe à Sciences Po, finalement, valide aussi le fait que l'islamo-gauchisme a gangréné la tête de ces gamins.
Alors, le problème, c'est que oui, ils sont incultes et aussi imbéciles, et les deux vont bien ensemble. Le problème, c'est que Israël a choisi son meilleur ennemi possible. Israël a favorisé Et ça va peut-être en faire bondir certains, mais malheureusement, c'est la vérité. Israël a favorisé l'émergence du Hamas pour avoir le pire ennemi possible contre lequel tous les coups sont permis.
Oui, exactement.
C'est ça qui s'est passé, c'est ça qui est horrible. Et à un moment donné, les Palestiniens, ayant vu que le Fatah n'était pas capable d'arrêter l'expansion et les colonies, ont voté Hamas. Et à ce moment-là, les Israéliens disent, regardez, d'un point de vue électoral, ils ont voté en âme et conscience pour un parti de fous furieux. Ah, mais d'accord, mais Israël a aussi favorisé cette émergence-là.
Tout ça ne rend pas service aux Palestiniens.
Mais non, mais bien sûr que non. Et la cause palestinienne, maintenant, elle est foutue. Parce qu'elle est défendue que par des barbus.
Non, enfin, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, Baudouin, là-dessus. Il n'y a pas que des barbus, déjà.
Qui finance la masse, c'est l'Iran.
Oui, non, mais si vous regardez les gamins qui sont dans la rue, ce n'est pas des barbus. En France, on n'est pas encore les barbus.
C'est des crétins là-dessus. C'est des crétins qui finiront barbus.
Oui, mais non, bah non, pas du tout.
Bah non, mais je ne suis pas sûr, parce que j'ai vu des associations LGBT, ils ne tiendraient pas deux secondes à Gaza, ni à Téhéran.
Baudouin, j'entendais des bruits de sabots derrière vous, là.
Oui, exact, oui.
C'est ça, vous
êtes à cheval sur la 13.
Vous êtes
avec David Belliard.
Vous êtes dans une écurie là,
oui,
en ce moment.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
Avec combien de chevaux derrière vous?
Voilà, dans les mains, j'en ai qu'un seul, ça suffit.
comment s'appelle-t-il?
Granit.
Vous êtes cavalier ou?
Oui, cavalier. Et
d'accord.
Coach.
Mais à quel endroit précisément?
Public, hein.
Dans le Loir-et-Cher. En fait, je suis indépendant, donc je navigue dans plusieurs endroits. Je vais aussi bien à Blois que dans des jolis patelins comme Huisseau-sur-Cosson.
D'accord. Et vous allez donner des cours à qui le veut bien, c'est ça?
Je donne des cours à qui le veut bien et je monte les chevaux de...
des propriétaires.
Des propriétaires.
Mmh. Voilà. Ok, d'accord. C'est en tout, vous êtes
vous
à votre
compte,
vous êtes sans, en toute liberté. C'est ce que j'allais dire.
Vous connaissez Chipou?
Faudra que vous fasse rencontrer Anaïs, notre cavalière, avec son cheval Chipou.
Ah, parce que c'est un étalon, hein, Chipou. Hein.
Ah ouais, non, là, je connais pas, j'ai pas
la. Prépare pour le Grand Prix d'Amérique.
Non, mais c'est pas une blague. Anaïs est une cavalière et
elle son cheval s'appelle Chipou.
Son cheval.
On essaie de le faire connaître, Chipou, parce qu'il a pas encore la carrière qu'il devrait avoir.
Il peut faire une belle.
Faudra mettre une. Écoutez, si d'ici la fin de l'émission, vous pouvez nous trouver une photo de Chipou.
Oui, ça, il faut demander à Anaïs immédiatement. Elle va t'en envoyer 150 000.
Dès qu'il s'agit de mettre une photo de Chipou, on va en trouver une. Merci Baudouin d'avoir été avec nous dans tous les cas. Je vous remercie Baudouin. Bonne route et bonne cavalcade. Dans un instant avec les juges, avec les grandes gueules, on va s'intéresser au mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois de la fainéantise. C'est le mois des vacances. Alors, est-ce que c'est une catastrophe pour l'économie?
Bruno Poncet.
Alors,
c'est le mois où les Français vivent toute l'année comme des salariés de la SNCF.
Voilà.
Comme les salariés de la SNCF vivent toute l'année.
Et de la RATP.
Est-ce que ce mois de mai...
Tu découvres ce que c'est qu'être à la CGT.
Les trains seront pleins.
Est une catastrophe pour l'économie.
S'ils démarrent, les trains.
Oui, pour Bruno. Et
non, 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 moi je suis... Non, non. Ma position est nuancée.
Ah oui, d'accord. Parce que tu vas quand même un peu en profiter.
Parce qu'il a déposé quelques jours.
Je vais préciser ma pensée.
Le parce que ses clients seront
fériés. Et toi, tu es dans quel camp? Tu es avec Mehdi?
Je suis bien sûr avec Mehdi, le camp des travailleurs.
Le camp des travailleurs, pas sur le camp des feignasses. La bourgeoisie. Par Bruno et par Charles. Jamais.
RMC. L'heure midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story, les grandes gueules à la radio, à la télé. Vous avez déjà la première heure des grandes gueules qui est disponible en podcast. Ça, c'est sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Nous sommes avec Charles Consigny, avocat, avec Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste, et avec Mehdi Kaysar. On a le camp du travail face au camp des vacanciers, le camp du labeur face au camp de On se la coule douce. On va parler du mois de mai.
C'est pas manichéen déjà.
RMC.
GG, Zenz et Match.
Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement.
Alors. Cette semaine qui démarre aujourd'hui, 29 avril, en fait, elle va marquer le coup d'envoi d'un mois de pont avec ses 4 jours fériés, dont 2 en 2 jours, les 8 et 9 mai. Donc. Pour beaucoup, ça va être l'occasion de faire comme si c'était une ambiance vacances. Période présentée comme étant idéale pour de longues pauses de travail, si tant est en plus qu'on puisse s'arranger avec les RTT ou avec le télétravail. Ainsi, en fait, en posant le vendredi 10 mai, on pourra avoir 5 jours de vacances pour un seul jour de congé payé. Alors, est-ce que c'est une catastrophe pour l'économie? 32-16 pour en parler avec les GG. Oui, disent Mehdi Guézard et Olivier Truchot. Non, pour Bruno Poncet et pour le nuancer Charles Consigny, mon cher Mehdi, vas-y, je te donne les 60 secondes, c'est parti.
Mais écoutez, c'est très facile. 0,1% du PIB sur l'année est consommé pendant ce mois de mai à cause des jours fériés. Alors je sais qu'il va y avoir une levée de bouclier, surtout de mes amis de la SNCF et de mon acolyte Bruno Poncet, pour qui un jour férié ou un jour de travail, c'est la même chose toute l'année. Mais le fait est que ça coûte de l'argent. Ça coûte
à la
de
CGT, un jour férié est un jour travaillé.
Voilà, c'est un jour travaillé. Mais en fait, le problème, c'est que il y a tellement de jours fériés en France, parce que je pense qu'on est le pays où il y a le plus de jours fériés dans le monde, si je dis pas de conneries, hein, après on pourra vérifier, mais que les gens ne savent même plus pourquoi c'est férié. Et moi, c'est ça que je trouve très grave. C'est qu'il y a des gens, tu leur dis 8 mai, ils te disent, je sais pas, l'Ascension, je sais pas, peut-être la fête du travail, ils s'en rappellent, mais les autres jours, ils n'en ont aucune idée pourquoi le jour est férié. Et à l'origine, c'est justement pour fêter quelque chose ou pour honorer quelque chose ou quelqu'un ou un événement dans le monde. Et maintenant, malheureusement, dans la période économique difficile dans laquelle on est, on n'a plus les moyens, nous n'avons plus le luxe de ces jours fériés à répétition. Mais maintenant, voilà, regardez la bonhomie de mon cher ami Bruno Poncet qui fait pfff. Mais voilà. Mais quand sur 365 jours, tu bosses pas 360 jours.
T'as déjà 11 jours fériés, voilà, en France. Hein. Ouais. Alors, attends.
Après, réponse. Je sais qu'on va perdre, hein. il faut le savoir, Olivier, c'est qu'on va se faire déchirer sur le sondage.
Tu crois, mois de gruyère, est-ce que c'est une catastrophe pour l'économie?
Mais bien sûr que
oui. Tu penses que c'est la France des ponts qui va voter et pas la France
mais bien
du
sûr
travail?
Que, c'est la France
Bruno
qui va
pensez.
Se barrer le week-end prochain.
Alors, déjà, tu perdras parce que tes arguments sont claqués au sol, déjà, pour commencer.
Dire. Venant de la SNCF, claqués au sol.
Des arguments comme ça, je vais te dire un truc. J'ai jamais vu tes poussinas.
Je t'écoute, Maître Poncet de la SNCF. Nous t'écoutons.
Vas-y. Alors, déjà, pour commencer, il n'y a pas un travailleur qui est responsable du calendrier. Donc, ça fait des années qu'on n'avait pas eu ça. Je crois que ça arrive une fois tous les 100 ans que tu peux avoir...
30 ans.
Tous les 30 ans, vraiment.
Les 8 et 9 mai fériés, donc les 8 mai 45, la fin de la Seconde Guerre mondiale, 9 mai, l'Ascension, collé comme ça, ça se reproduira dans 30 ans.
Non, mais surtout, c'est des fois, le nombre de fois l'année dernière, je crois que c'est dernier, où il y a 2 ans, t'avais quasiment tous les fériés du mai, ils étaient en samedi ou en dimanche.
Ah, donc déjà. Tu faisais la gueule, là, les SNCF. Ah,
il y a eu des dépressions, hein.
Non, mais
à la SNCF,
du coup, ils ont eu des jours de congés supplémentaires.
J'étais tout sous Tranxel.
Non, rajouter du RTT à la SNCF.
Non, mais par contre, d'un côté, alors, Mehdi, t'es chef d'entreprise, t'as quand même des business qui sont quand même en lien avec le tourisme. Enfin, tu peux quand même te réjouir que la plupart des gens, ceux qui peuvent, c'est pas le cas de la plupart des travailleurs, malheureusement, mais ceux qui peuvent vont partir, vont aller peut-être en province, vont aller ailleurs, vont peut-être visiter Paris, ceux de province. Et donc, en fin de compte, ça fait marcher quand même l'économie.
À un moment donné, ça compense pas.
Mais mais de toute façon.
On s'en fout.
Mais c'est même pas le sujet, c'est que c'est comme ça et que c'est pas. Voilà.
Et on changera
et si
pas. Et, on comme
et
ça.
Si vous voulez d'autres jours fériés, moi je sais
c'est
pas.
C'est des acquis sociaux.
Si, bah tiens, c'est quand la finale de la Ligue des Champions? Quand on va gagner avec des champions?
C'est un samedi.
Et ben voilà, et ben que ça deviendra peut-être un jour férié à la place du 8 mai, que les gens savent pas ce que c'est en fait.
On gagnera la Ligue des Champions.
J'ai un ami auditeur et syndicaliste dont je tairai le nom pour pas le mettre en difficulté avec son entreprise. Il me dit. Toutes les sections syndicales de France ont fait le calcul depuis janvier 2024. Tu as donc 4 jours off, hein, entre le 30 avril et le 12 mai, hein, ça commence avec le 1er mai, mercredi. Les ponts, tu glisses un petit arrêt maladie 3 jours, plus une délégation syndicale, tu as 15 jours. Donc c'est pas mal, tu vas avoir 15 jours.
Vous connaissez là-dedans.
Voilà. Alors ça, c'est le calcul des syndicalistes.
Délégation syndicale
de droite, c'est pas possible.
Non, mais dans un pays où on travaille moins que les autres, et ça, toutes les études le démontrent, hein, on travaille moins que nos voisins européens, on travaille moins, bien sûr, que les Américains. Je dis pas ça. Bien sûr, il y a des gens qui travaillent beaucoup en France, mais il y en a beaucoup qui ne travaillent pas assez. On est le pays des 35 heures, on est le pays aussi du télétravail.
Parce que le télétravail.
Oui, bien sûr, comme par hasard, c'est vendredi. Le télétravail, c'est la télé et le travail. Même temps. Et donc.
Surtout non, mais toi, tu connais que le mot télé dans télétravail. Tu sais pas ce que c'est le boulot.
En même temps, si les gens regardent la télé, moi, ça m'arrange. Non, sérieusement, vous pouvez pas défendre ce mois de mai qui est un mois de gruyère et qui avait une catastrophe pour l'économie. Dans les entreprises, c'est un casse-tête.
Ils s'en foutent.
Il n'y aura plus personne dans les boîtes.
Mais ils s'en foutent que ça soit une catastrophe pour l'économie. Le mec, il a son salaire quoi qu'il arrive tous les fins de mois. Il en a rien à foutre.
Pas Charles.
Je te parle pas de Charles. J'ai dit le mec. Charles est entre les deux. Il a bien dit, il est entre les deux. Je te parle de notre cher ami syndicaliste Bruno Poncet, il en a rien à foutre de l'économie.
Alors, Charles,
tous les mois, il a son salaire qui
tombe. Toi qui reproches souvent aux Français de ne pas assez travailler,
on s'en fout.
Toi, le libéral, pourquoi tu es dans cette position nuancée et plutôt dans le camp de Bruno Poncet. Non,
parce que moi, je suis
pour... Tu as posé tes jours depuis combien de temps?
Je suis pour qu'on travaille vraiment quand on travaille. C'est ce qui me différencie de Bruno Poncet.
Ah, ça y est.
Mais je suis pour que, par contraste, on profite vraiment des moments de respiration quand ils arrivent. Et je pense que c'est sain pour tout le monde d'avoir ces moments de respiration un peu inattendus du mois de mai.
C'est pas inattendu.
Qui coïncident avec le printemps. Bah, moi, je suis toujours un peu surpris de voir arriver les jours fériés, etc. Bon. Et qui sont des moments de respiration pour les salariés, pour les gens qui sont...
Charles, quand arrive le 1er mai, il est là, il fait « Oh !» Tiens, un jour férié, le 1er mai, je suis agréablement surpris. Ah, surtout que je ne m'y attendais pas.
Mais le 1er mai, Charles, c'est pas un jour férié pour lui. C'est quand même lui, Charles, qui est de droite et qui est vendéen. Enfin, le 1er mai pour lui, c'est quand même à l'opposé de ses convictions.
Ah, ça, c'est sûr.
Mais parce que ses clients ne travaillent pas.
Mais donc, je suis pour des moments. Je suis pour des moments. Non, on les en sort fort heureusement. Je suis pour des moments de respiration et je pense par ailleurs. Alors, peut-être que ça. Qu'on pense pas, mais je pense quand même que, par exemple, en province, ils sont quand même assez contents, ne leur en déplaise, enfin, contrairement à ce qu'ils prétendent, de voir arriver les Parisiens dans les moments de week-end et de trucs, dans les chambres d'hôtes, dans les commerces, partout. Faut dire les choses, c'est quand même Paris qui fait vivre la province. Là, je vais me faire des amis.
C'est bien, on va gagner. On va gagner, Mehdi. Grâce à cette phrase.
Là, je me fais des millions d'amis.
Alors, vous avez vu?
Je me fais des millions
d'amis. Ce racisme en anti-province, votez pour Mehdi.
Moi, la différence, c'est que je suis pour ces jours fériés, etc. Je ne considère pas que ce soit catastrophique. Je pense qu'en revanche, ce qui est catastrophique, c'est de façon générale l'espèce de culture du non-travail qui s'est installée en France et qui est un phénomène beaucoup plus insidieux et qui s'est répandu partout. Par exemple, la semaine de 4 jours dans la fonction publique qui est en ce moment installée par le gouvernement.
Non,
moi,
c'est
c'est en train, petit à petit...
Ils en parlent, mais c'est pas...
Mais ils sont en train de le mettre partout. Dis-toi que même à la RATP, qui est une boîte qui ne fonctionne pas, Jean Castex,
à cause de Pécresse.
Jean Castex, dont on n'a pas vu l'utilité à la tête de cette boîte.
Il a fait des chèques pour acheter la paix sociale pendant les JO.
La RATP.
Il a ça ne s'est pas du tout amélioré. Ils sont en train, à la RATP, qui est déjà une boîte qui ne marche pas, de mettre en place la semaine de 4 jours. Et contrairement à ce qu'ils prétendent, ça ne sera pas la semaine en 4 jours, ça va être la semaine de 4 jours. Et dans toutes les autres administrations où ils étaient déjà en réalité, dans la réalité des faits, à la semaine de 3 jours,
ça, c'est bien,
la semaine de 4 jours officielle, évidemment que ça va réduire la qualité, l'efficacité de ces services publics. Donc ça, c'est beaucoup plus ça, moi, qui m'inquiète que... Somme toute, des jours qui sont clairement fixés dans les calendriers et où, bah, ces jours-là, les salariés ont un moment de respiration qui leur permet, après tout, de se reposer un peu et de repartir d'attaque. Donc voilà, je serais pour que les choses soient plus claires et qu'en revanche, on rentre vraiment dans l'art et très durement de la culture du non-travail.
Tu es en train de dire, si je comprends bien, ces jours fériés à répétition seraient justifiés si les Français travaillaient plus.
Exactement.
Voilà. Mais c'est vrai que, en fait, il y a deux Frances. Il y a une France qui travaille comme des
bourrins. Vous la connaissez pas.
Comme des bourrins.
Exactement.
Comme des bourrins. Les artisans, les libéraux, les indépendants.
Les gens qui prennent la 13 le matin.
Non, mais attends,
les gens qui prennent la 13 le matin. Les commerciaux.
Ceux qui font le ménage et tout.
Les ceux qui font le ménage.
Parce que là, t'étais parti sur quelques
pains
de droite.
Non, non, non. Je faisais la liste.
Ceux qui prennent la traite,
ceux qui permettent de livrer les commerces.
Je suis sûr pour vous dire que 1er mai on sera là, 8 mai on sera là.
Je parle à Bruno, il est choqué, tu vois, t'imagines.
Il est choqué par la question.
En fait, moi, j'ai fait 15 ans de 3-8 jusqu'au Bataclan, donc ça m'a emmené mes 15 ans de 3-8. Et en fait, quand je travaillais en 3-8, je travaillais tous les jours fériés, en fait, parce que tu remplaces des gens qui sont pas là et tout. Donc, moi, j'ai toujours travaillé les jours fériés, Noël, jour de l'an, et j'adore ça, en fait.
Ah bah alors.
J'adore les jours fériés.
Là, mais travailler que les jours fériés.
Bah oui, maintenant, on me prive. Moi, je veux travailler que les jours fériés.
11 jours par an.
Mais oui, et voire même, allez, puis je peux même travailler
t'es
un peu.
Mais 5 fois la journée, c'est
voilà,
ça.
Mais moi j'aime les jours fériés, c'est ma vie, les jours fériés.
Le mois de mai, c'est le mois gruyère. Est-ce que c'est une catastrophe pour l'économie?
Je te jure qu'on a perdu.
Attends, mais
Olivier,
attends.
On a perdu.
Le résultat de la consultation dans un instant. Ah ouais. On écoutera Sébastien. Il est dans les Yvelines, il est responsable logistique et on verra quel camp il a choisi.
Nous mourrons avec nos idées, Olivier et moi.